Très heureux de ce moment, très heureux de vous saluer toutes et tous, évidemment en commençant par Mathias Dufour, le porteur de ce très beau projet le plus important, qui est le partenaire aujourd'hui du CNAM, comme il l'a été dans d'autres occasions, et qu'il le sera dès la semaine prochaine. Permettez-moi de saluer l'ensemble des participants à cette manifestation. Un salut tout particulier à celui qui va s'associer à nous par un message très important, qui est Pierre Gattaz. Pierre Gattaz est un homme, j'allais dire une personnalité, qui porte haut et fort les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Il l'a fait au niveau du MEDEF, il le fait au niveau de son entreprise, les sujets notamment de compétences. Et puis, vous saluez toutes et tous dans vos responsabilités respectives et surtout en ayant accepté de participer à notre manifestation. Cette manifestation, vous l'avez compris, c'est donc un colloque qui, à nos yeux, est très important sur cette question d'entreprise et de transition inclusive, plus directement consacré à la question de comment une entreprise devient inclusive. Et donc, pour le Conservatoire national des arts et métiers que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger, c'est essentiel. C'est essentiel aussi parce que c'est une réflexion, et je vais y revenir, que nous portons beaucoup, mais c'est aussi très important de travailler de façon très étroite avec ce formidable think tank qui est le plus important, et puis de travailler aussi avec une institution qui nous a apporté tout de suite son soutien plein et entier, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Ils nous ont fait confiance pour porter ces états généraux de l'investissement social. Et puis, vous remerciez toutes et tous d'être autour de cette table virtuelle. Et soyons clairs, nous n'attendons qu'une chose, c'est de vous accueillir à nouveau dans les locaux de la rue Saint-Martin, de la rue Comté, dans les locaux du Conservatoire, avec évidemment nos amis du plus important. C'est ce que nous souhaitons, ça sera visiblement bientôt possible. Sur la manifestation elle-même, il est clair que cette manifestation met en avant deux transitions majeures, deux transitions qui sont autant de sujets de préoccupation, à la fois, j'allais dire, en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais aussi en tant que responsable, en l'occurrence, dans mon cas, responsable d'un établissement public. La transformation, bien sûr, et la transition, bien sûr, écologique, qui est extrêmement, j'allais dire, presque oppressante de par son urgence. Nous voyons tous les impacts avec les catastrophes naturelles, avec les extinctions d'espèces, avec la hausse des températures. Et donc, il y a cette transition écologique qui forme un arrière-fond complexe. Et puis aussi, évidemment, l'autre transition, qui est la transition numérique, qui est une transition au moins aussi importante de par l'impact qu'elle a sur les questions de travail, et je vais y revenir aussi de par l'impact sur la question de la transmission de la formation. Tout cela a été accéléré, j'allais dire, dans la réalité, mais aussi dans les perceptions, mais aussi dans les manières d'y répondre par la crise que nous sommes en train de traverser, dont nous espérons sortir, par la crise pandémique qui a bien montré, voilà, qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur notre environnement au sens large et beaucoup d'incertitudes aussi sur nos manières de travailler, de nous comporter, nous faisant passer par des réunions comme celles que nous avons précisément en ligne, mais aussi mettant l'accent sur ce que le numérique apporte en termes d'instruments de travail, en termes d'instruments aussi de santé. Et avec cette question de trouver le bon équilibre, je crois que ça sera une des questions phares de cette manifestation, le bon équilibre entre ce qui est, si vous me permettez un mauvais français, digitalisable, numérisable, et ce qui doit rester de l'ordre du relationnel traditionnel. Nous, au CNAM, on le raconte en disant, et je vais y revenir, hein, sur la question de la formation, en disant aujourd'hui, si vous prenez trois modalités, une modalité de formation simplement en distanciel, une formation plutôt exclusivement en présentiel. Ce qui marche le mieux à chaque fois, c'est l'hybride qui réunit les deux. Et ce n'est pas pour faire une pirouette que je dis ça, mais c'est la réalité de nos études de cohorte. Tout cela nous amène à la question qui est donc celle d'entreprise et de transition inclusive. Et évidemment, en partie, il y a cette question de nous adapter aux grandes évolutions qui sont les évolutions du climat, de l'environnement. Et puis, il y a aller vers plus d'impact et bien mesurer comment le numérique va changer notre économie et donc notre société, ou notre société dont notre économie. D'abord parce que nous constatons chacune et chacun que le numérique est porteur de croissance, porteur d'emploi. Parmi les métiers en tension, s'il y a un métier en tension qui revient presque immédiatement, automatiquement, c'est celui de data scientist, c'est celui d'analyste du numérique. Donc, il y a clairement ce besoin. Et puis, plus généralement, il y a cette modification des compétences, cette modification très forte de la nature de l'exercice des métiers, totalement bouleversée, impactée, et de plus en plus par cette question du numérique. Et donc, très clairement, la question qui nous est posée et sur laquelle je me permettrai de dire quelques éléments, c'est comment un grand organisme de formation comme le Conservatoire, mais je prendrai l'exemple du Conservatoire parce que, évidemment, c'est celui que je peux raconter, mais cette transformation, elle impacte l'ensemble des autres établissements, eh bien, se saisit de la question de cette transformation numérique à vocation pédagogique. La première chose que je voudrais dire, c'est que, évidemment, le mot-clé, c'est le mot, je ne surprendrai personne en disant que c'est le mot d'innovation, c'est le mot, peut-être le mot clé, l'innovation étant au cœur de ce que nous pouvons faire. Je voudrais en prendre un exemple qui pour nous est très important, c'est la question des travaux pratiques, des travaux pratiques numériques, des travaux pratiques digitalisés. C'est aujourd'hui l'un des outils de montée en compétences dont notre pays a besoin, qui existe dans des réalités extérieures. Je pense à un pays qui nous influence beaucoup, que nous écoutons beaucoup, en tout cas dont nous nous inspirons beaucoup, qui est la Corée du Sud. C'est cette question des travaux pratiques virtuels. Qu'est-ce que ça veut dire, les travaux pratiques virtuels ? Ça veut dire que, en gros, vous pouvez apprendre tout ce qui sont les nouveaux gestes de la transition inclusive comme de l'emploi grâce à des outils portés par, en gros, une espèce de révolution à la fois sur l'innovation et sur le numérique. Nous sommes très heureux ainsi de pouvoir engager la mise en place de, techniquement, ce qu'on appelle des jumeaux immersifs, mais évidemment, il y a d'autres formes importantes pour que ces gestes, parce que pour revenir aux gestes, ces gestes soient virtualisés, surtout les gestes qui sont porteurs de rupture technologique, de rupture en termes d'emploi. Et en définitive, qu'est-ce qu'on voit derrière cela? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a la nécessité d'être en anticipation, la nécessité de l'une des formes de l'inclusivité, l'une des formes de la dimension d'aller plus loin, c'est clairement l'anticipation vers de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques. La deuxième chose que je voudrais, la deuxième grande chose que je voudrais dire, sur lequel je voudrais insister, de par, encore une fois, notre exemple, c'est qu'il y a évidemment une question centrale qui est la question du bon niveau d'intervention. Nous sommes un grand pays jacobin, un grand pays qui lance des grandes initiatives nationales, mais il est très clair que la mobilisation tant de l'entreprise que des responsables économiques, mais j'allais dire que de tous les décideurs ou les acteurs doit se faire au bon niveau territorial et que c'est une vraie préoccupation. Nous avons ainsi lancé au CNAM un dispositif qui s'appelle Au cœur de territoire pour être au plus près de nos territoires. Et à chaque fois, nous nous rendons compte que quand nous apportons la formation, la montée en compétences au bon niveau territorial, eh bien, nous transformons les choses. J'en prendrai juste pour être, sans être trop long, hein, quelques exemples. Nous avons créé une chaire agroalimentaire à Saint-Brieuc. Eh bien, cette chaire, elle permet deux choses qui sont les deux transitions dont j'ai parlé. Aller vers une agriculture plus vertueuse et transmettre les compétences pour une agriculture plus vertueuse et évidemment l'accompagner d'un bon niveau de digitalisation, notamment dans la formation. Et puis, plus récemment, nous avons créé une chaire sur l'hydrogène, les énergies décarbonées, que nous allons installer dans la Cité de l'Espace à Vernon, à quelques encablures du groupe Ariane Espace. Et puis, et permettez-moi de dire deux mots de ce très beau projet. J'y étais la semaine dernière en bonne compagnie, puisque j'étais en présence de Bruno Le Maire, donc du ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons créé une chaire partenariale à La Roche-sur-Yon qui s'intitule « Territoire durable et flexibilité énergétique » et qui permet que ce qui va être le sujet du comment nous allons vers la transition, de comment nous allons travailler avec et pour les entreprises, eh bien, nous le créons dans le territoire lui-même et à proximité avec les acteurs. Dernier point pour conclure, parce que c'est évidemment le thème central, l'entreprise, je crois qu'aujourd'hui, le constat est très partagé, nous en attendons beaucoup et nous devons en attendre beaucoup. L'entreprise, elle est devenue apprenante, elle pratique notamment, et disons un mot de ce formidable succès de l'apprentissage dans notre pays, de ce formidable succès avec des chiffres de 700 000 apprentis où nous allons challenger l'Allemagne, donc c'est un formidable sujet. L'entreprise, c'est un formidable lieu, évidemment, du développement économique, mais pour la problématique qui nous concerne, l'entreprise est aussi le levier de la transformation des rapports sociaux au sens le plus large du terme. Cette manifestation, elle va nous permettre d'avancer sur cette question-là. Nous allons travailler sur les impacts RH avec les grandes transitions. Nous allons travailler sur la question du développement du management fait autour de l'intelligence artificielle. Nous allons évidemment traiter la question de la responsabilité sociétale et environnementale. Moi, je voudrais conclure d'une phrase sur ça. Je crois que l'entreprise est non seulement apprenante dans notre pays, mais elle doit être enseignante dans notre pays au sens où elle doit nous faire passer des messages. Je voudrais juste conclure sur ce message-là qui est pour moi très important, que j'avais eu l'occasion de développer d'ailleurs dans un travail antérieur, qui est de dire c'est assez étonnant qu'on demande à une entreprise d'être responsable au point de vue sociétal et environnemental. Cette responsabilité, pourquoi ne nous l'élargissons pas à ceux qui sont les symboles de l'action de l'État? Moi, j'attends qu'un jour, on nous demande à nous, les grands établissements publics, d'avoir le même niveau de responsabilité parce que nous devons nous inspirer de ce qui est fait. Donc, l'entreprise est déjà un formidable levier vers une société plus inclusive. Et je ne doute pas qu'aujourd'hui, les travaux de la manifestation que Mathias a portée haut et fort et a permise, eh bien, vont nous permettre d'avancer sur cette question-là. En tout cas, je me réjouis que le Conservatoire soit associé à une aussi belle manifestation. Et évidemment, je souhaite que nous ayons un très bel après-midi d'échange. Voilà, Mathias, ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup.
Je veux tout d'abord saluer l'ensemble des participants à ce colloque dont le thème « Faire de l'inclusion professionnelle une priorité des entreprises pour réussir la transition écologique et numérique » me semble important à plus d'un titre. Et je veux profiter de mon intervention pour partager des constatations issues de ma pratique terrain, que ce soit dans mon entreprise Radial ou bien dans le cadre du fonds de dotation Y-Croire que j'ai créé en terminant mon mandat au MEDEF il y a quelques années et dont l'objectif est la revitalisation des territoires ruraux, notamment grâce à l'entrepreneuriat. Tout le monde le constate et l'affirme, nos marchés et nos entreprises sont en cours de transition écologique et numérique. Tous les secteurs et professions subiront une profonde transformation dans les années à venir et devront s'adapter à des processus et à des méthodes de production plus écologiques. Parallèlement, le processus de numérisation est en cours, changeant profondément notre société, nos consommations, nos habitudes, nos modes de production. Et ces deux transitions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. La numérisation contribue à des processus de production, des prestations de services et des modes de vie plus respectueux de l'environnement, tandis que le verdissement de l'économie nécessite des technologies et des solutions numériques plus avancées pour accompagner les changements structurels de notre société. Cette double transition se traduit donc par une demande accrue de compétences nouvelles et variées. La pénurie croissante de travailleurs ayant les compétences nécessaires pour répondre à ces besoins, pour répondre aux emplois disponibles, est donc aujourd'hui un problème urgent pour bon nombre d'entreprises, qu'elles soient très grandes ou toutes petites. Si rien n'est fait, cela entravera notre potentiel de croissance économique et la reprise. Dans ce contexte, toutes les énergies doivent converger pour encourager, d'une part, la création d'emplois par les employeurs et, d'autre part, la participation des travailleurs à l'emploi. Concrètement, cela signifie, premièrement, veiller à ce que les politiques de l'emploi créent les incitations nécessaires pour favoriser l'emploi. Je pense évidemment à la réforme de l'assurance chômage en France, qui doit inciter plus fortement les salariés qui peuvent à reprendre un emploi. Un message, nous devons valoriser mieux le travail par rapport aux aides et focaliser l'assurance chômage sur ce qu'elle doit être, une aide temporaire entre deux emplois. Deuxièmement, il est important que les systèmes d'éducation et de formation nationaux soutiennent mieux les transitions vertes et numériques en mettant plus rapidement à jour les programmes d'études et de formation et le contenu des qualifications en fonction d'exigences professionnelles changeantes. Je vais prendre un exemple assez ancien. Lorsque j'étais président de la FIEC, la Fédération des industries électriques et de communication, nous avions été confrontés à ce problème et nous avions beaucoup travaillé pour mettre en œuvre les premières formations qualifiantes pour la pose de fibres optiques sur le territoire, car nous étions conscients des besoins à venir. C'était dans les années 2015. Il avait fallu convaincre largement, et cela nous a demandé des mois d'efforts, alors même que le programme de formation avait été défini assez rapidement. Et ce sont ces délais qui doivent être raccourcis et les anticipations des compétences nécessaires en lien avec les entreprises renforcées. Un message donc, nous devons être plus agiles pour développer les nouveaux métiers ou les nouvelles compétences dans ces métiers. Troisièmement, les entreprises doivent être soutenues dans leurs efforts pour investir dans les compétences de leurs collaborateurs. Car former est un investissement. Nous le disons tous, mais il faut se rendre compte que l'investissement qui vient dans les années à venir va être considérable. Un message donc, les politiques actuelles méritent d'être vues à l'aune de cet enjeu de très fort investissement. Quatrièmement, nous devons anticiper le vieillissement de nos populations. Ce vieillissement, conjugué à la baisse de la natalité, provoque une diminution de la population en âge de travailler dans toute l'Union européenne d'ailleurs. Il est donc essentiel d'attirer davantage de personnes au travail. Une plus grande participation à l'emploi est en outre nécessaire afin de maintenir la viabilité financière des systèmes sociaux à long terme et de le faire de manière équitable pour les différentes générations. Un message, Nous devons donc réduire les niveaux d'inactivité dans toute l'Europe si nous voulons répondre aux enjeux de compétences actuelles et futures, mais également assurer une protection sociale adéquate à l'avenir. Au-delà de ces politiques générales, je crois que nous devons aussi travailler sur des initiatives plus spécifiques. J'en ai deux en tête. Une première initiative, cultiver l'enthousiasme et la capacité d'adaptation. Plus précisément, la question des compétences qui préparent à ces nouveaux métiers se pose depuis plusieurs années et la réflexion doit continuer. Mais je voudrais ouvrir ici une piste de réflexion qui est la question de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire la capacité à donner une posture d'entrepreneur à nos salariés. Dans le cadre de mon fonds de dotation, Y Croire, nous travaillons à donner une posture entrepreneuriale à des personnes parfois très éloignées de l'emploi, non pas pour en faire forcément des entrepreneurs, mais pour leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie, de leur redonner une estime de soi. Et nous avons constaté que dans les promotions déjà faites depuis quelques années, une part non négligeable retrouvait un emploi et donnait satisfaction à leur employeur par leur attitude nouvellement positive et enthousiaste et leur capacité retrouvée à s'adapter à des situations nouvelles. Or, dans un monde changeant et en évolution accélérée, notamment sous l'impact du numérique, cette capacité d'adaptation me semble être le type de compétence que nous pouvons et que nous devons rechercher. Ainsi, nous devons peut-être réfléchir à l'avenir, moins dans la définition de savoir académique ou normé, que dans l'acquisition d'un savoir-être qui permettra l'adaptation et le rebond. Travailler le savoir-être en quelque sorte. Une deuxième initiative, les métiers artisanaux et techniques et technologiques. La question de la transition écologique et numérique ne s'appliquera pas sur le terrain si nous n'avons pas des salariés compétents qui vont bien. C'est d'ailleurs ce que nous apprend la situation actuelle. Il ne suffit pas d'avoir un taux de chômage élevé pour que les pénuries de main-d'œuvre disparaissent. On peut donc avoir à la fois un taux de chômage élevé et des tensions durables dans ces métiers. Cela s'explique en partie par un manque de communication et une mauvaise image de certains métiers, notamment les métiers manuels. La promotion de ces métiers et la revalorisation de leur image est donc une démarche essentielle. Voilà les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous en introduction de cette journée qui, j'en suis certain, sera riche et passionnante. En vous souhaitant un bon travail, je vous remercie de votre attention.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces états généraux de la transition inclusive. J'aurais évidemment préféré être présent, mais c'était hélas impossible pour moi. J'aime beaucoup ce thème de la transition inclusive qui, au fond, pose le problème du rapport entre l'obligation de la et même des transitions, la transition économique, la transition écologique, la transition sociale, et sa relation avec la question de l'inclusion hein, dans un contexte de fracture sociale de plus en plus importante. Comment fait-on en sorte que les transitions ne se fassent évidemment pas aux dépens de l'inclusion? Et même, en réalité, comment faire en sorte que l'inclusion serve l'ensemble de ces transitions? Moi, je pense que ça passe d'abord par, au fond, la question de l'inclusion au sein même de l'entreprise. Comment fait-on en sorte que les salariés soient totalement inclus dans les réflexions sur la transition et bien sûr dans la mise en œuvre de ces transitions? On a mis en place, pour ce qui concerne la Maïf, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, ce qu'on appelle le management par la confiance, avec qui repose d'abord sur la question du sens, hein, auquel les gens sont de plus en plus sensibles. Ils ont besoin, et c'est normal, de trouver du sens à leur action pour nourrir leur motivation, nourrir leur envie. La question de la confiance et donc des marges de manœuvre qu'on laisse le plus large possible à chacun des collaborateurs. La question, bien sûr, de la nature de la relation, qui est plutôt fondée sur l'attention que l'on peut porter à l'autre, une forme de bienveillance plutôt que la compétition interindividuelle. Et dans ce contexte-là, naturellement, on essaye d'amener l'ensemble des collaborateurs à contribuer à la réflexion que l'on peut avoir dans le groupe sur notre rôle dans la transition environnementale, dans la transition sociale, sur les engagements que l'on peut avoir et la recherche d'un impact positif. Et puis, bien sûr, chacun, dans la conduite de son propre métier, est amené à réfléchir à la façon dont il peut l'exercer pour maximiser, en quelque sorte, l'impact positif qu'il peut avoir sur ces sujets et à l'égard de la société en général. Donc, je crois que l'articulation entre inclusion et transition passe d'abord par le corps social interne. Donc ça, c'est vrai des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, ça l'est encore plus sur la manière dont l'entreprise va s'organiser pour accueillir le public le plus divers, hein, dans une logique d'égalité des chances, au fond, hein, et d'inclusion, avec évidemment toute la dimension de formation, de recrutement qui va avec. Et là, on voit bien le double intérêt d'avoir une démarche très ouverte en matière d'inclusion. D'abord, bien sûr, intérêt là aussi pour augmenter son impact sur la société. Si les entreprises ne contribuent pas et ne contribuent pas fortement au sujet de l'égalité des chances et de l'inclusion, rien n'avancera sans elles, naturellement. Mais aussi l'intérêt pour les entreprises elles-mêmes, parce que c'est aussi à travers la diversité on multiplie les prismes, que l'on multiplie les points de vue, les regards différents, pour avoir finalement une appréciation de la réalité beaucoup plus complète et des actions, au fond, également beaucoup plus complètes. Je pense que c'est vraiment sur ce double travail à l'égard du corps social interne de l'entreprise et à travers son enrichissement par la recherche d'une inclusion de profils les plus variés possibles, que l'on peut faire en sorte à la fois de créer une dynamique au sein de l'entreprise et une dynamique naturellement indispensable pour sa propre activité, mais aussi créer une dynamique collective d'engagement de l'entreprise et de rayonnement vers l'ensemble de la société. Voilà, bons travaux, excellente journée de réflexion collective et je l'espère à très bientôt. Au revoir.